Pierre-Étienne Joie.
La population suisse verra à nouveau ses primes maladie augmenter en 2026, mais cette hausse devrait être plus modérée que les plus 6% de 2025. La Confédération reste toutefois prudente à ce stade. Les primes reflètent les coûts de la santé. Ces derniers continuent de croître. Il n'y a pas de changement de dynamique à ce niveau, a expliqué l'Office fédéral de la santé publique. Comme cause, l'OFSP indique notamment le vieillissement de la population et les coûts des nouveaux médicaments. Les droits de douane décrétés par Washington à l'encontre de la Suisse ont mis un coup de frein aux échanges avec les États-Unis en avril. Les envois de montres ont en revanche échappé à la tendance en raison de la constitution de stocks. Les exportations ont chuté de 9,2%, les importations de 15,6%. Les envois à l'étranger ont toutefois totalisé 25 milliards de francs, soit le second résultat le plus élevé jamais enregistré. Politique neuchâteloise, les membres du Grand Conseil et les cinq conseillers d'État, dont la nouvelle venue, la verte Céline Vara, ont été assermentés. Le chaudefonnier vert Émile Blanc a été élu président du Grand Conseil à l'âge de 25 ans, le deuxième plus jeune de l'histoire. La PLR Christelle Graff, qui vient aussi de la Chaux-de-Fonds, va présider le gouvernement. Une grosse avalanche s'est produite la nuit passée sur les hauts de Blatten dans le Haut-Valais. Le village évacué donc sous la menace de la montagne. Mais cette coulée de glace, de roches, de neige et d'eau n'a pas atteint le fond de la vallée. Le front du glacier de Birch avance désormais de 10 mètres par jour, poussé par un éboulis de 9 millions de tonnes. L'ONU ne peut pas confirmer que l'aide de la Fondation humanitaire de Gaza a démarré dans la bande de Gaza comme celle-ci l'a annoncé. Il faut au moins 500 à 600 camions chaque jour, affirme une responsable de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. De nombreux camions attendent. Aucun approvisionnement n'est rentré depuis 3 mois, y compris depuis l'annonce israélienne de l'assouplissement il y a une semaine, précise l'UNRWA. L'ancien maire de Paris, Jean Tiberi, est décédé à l'âge de 90 ans. Il était le dernier édile de droite de la capitale française. L'ancien maire de Paris, Jean Tiberi, est décédé donc. Il était du 5e arrondissement dont il était élu. Et puis Jean Tiberi avait succédé en 1995 à Jacques Chirac, dont il était un grand fidèle. Il a dirigé la capitale jusqu'en 2001 avant d'être battu par le candidat du Parti Socialiste Bertrand Delanoë. Sa carrière politique a été éclaboussée par les affaires, dont celle des faux électeurs. 4 personnes, dont un enfant, sont toujours hospitalisées dans un état grave après qu'un automobiliste a foncé sur la foule hier soir à Liverpool. Les gens célébraient la victoire du club de foot de Liverpool en première division anglaise. Il y a eu près de 50 blessés au total. Un cordon policier était toujours en place ce matin sur les lieux du drame. La police ne pense pas qu'il s'agit d'un acte terroriste. La météo, bien ensoleillée en pleine cet après-midi, en partie ensoleillée sur le Jura et dans les Alpes, mais seulement quelques éclaircies dans les préalpes, 21 degrés. Demain mercredi, le matin, assez ensoleillé en Valais, autour de l'Léman et dans les préalpes. L'après-midi, le ciel va devenir de plus en plus nuageux, avec l'arrivée de quelques précipitations aussi à partir du nord-ouest, d'abord en Ajoie, puis dans les préalpes, généralement sec sur le sud du Jura et l'ouest lémanique, 12 degrés le matin, 18 au nord du plateau, 22 en Valais, et à Genève, attention, rafale de vent d'ouest probable.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info. Infotrafic RTS.
Sur l'axe Lucerne-Chiasso, des colonnes de 3 km s'étendent de part et d'autre du tunnel du Gothard, ce qui représente une demi-heure d'attente en direction du Tessin et en sens inverse.
Il est mondialement connu et reste pourtant un mystère.
He is the most famous artist in any point of art history.
Jusqu'au 29 juin à Beaulieu, Lausanne, plongez dans l'univers de l'un des génies de l'art urbain avec The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Plus de 200 œuvres, graffitis, photos, sculptures et vidéos pour tout savoir sur Banksy, artiste peintre et graffeur né à Bristol. Véritable icône artistique. Plus d'informations sur mystery-banksy.ch.
Nobody has been that famous and yet invisible.
Retrouvez l'actualité culturelle dans Vertigo, du lundi au vendredi à 17h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
J'ai un monsieur de Fribourg qui m'a contacté, qui m'a dit, ben voilà, moi j'ai plusieurs urnes de mes chiens à la maison. J'attends un endroit qui me plaise pour pouvoir les mettre. Donc, je trouve ça magnifique. Alors, peut-être cet endroit ne sera pas sans convenance, mais peut-être que oui. Puis peut-être qu'il trouvera enfin un endroit où il pourra venir se recueillir, où il sera heureux de laisser ses animaux.
Vacarme. Vacarme.
Tel maître, tel chien.
Raphaël Bouchet et Laurence Di Félix.
Un chien vit en moyenne entre 11 et 15 ans. Mais si un chihuahua peut vivre jusqu'à 20 ans, les grands chiens comme les dogs ne dépassent que rarement 8 ou 9 ans. Concrètement, ça signifie que lorsqu'on prend un chien, on doit se préparer à l'idée de sa vieillesse et de sa mort. Mais si le deuil d'un humain est un passage ritualisé, avec la toilette mortuaire, le faire-part, la cérémonie, l'ensevelissement ou la crémation, la mort d'un animal de compagnie et la manière de gérer sa dépouille ne sont pas codifiées. En Suisse, la loi autorise l'inhumation d'un animal dans son jardin, à minimum 1,20 m de profondeur, à condition que l'animal pèse moins de 10 kg. Lorsqu'on n'a pas de jardin, ou que le chien est trop grand, ou que l'on est dans une zone de protection des eaux souterraines, il est possible de l'enterrer dans un cimetière pour animaux, ou de le faire incinérer et de récupérer ses cendres. Avant de rejoindre Laurence Guémard dans un cimetière pour animaux qui s'apprête à ouvrir dans le canton de Neuchâtel, nous poussons le portail de la famille Glore, à Saint-Sulpice, dans le canton de Vaud, où nous attendent Tiffany, 20 ans, et son papa Xavier.
Chut, Sophie, tais-toi! Tu te tais maintenant!
Pas trop embêter les voisins.
Bah, oui, volontiers, merci. Donc ça, c'est votre demeure.
Oui, voilà.
Enfin, je ne sais pas si c'est votre demeure ou celle des chiens.
Officiellement, c'est celle de ma maman. Normalement, c'est aussi celle des chiens.
D'accord.
Mais ils sont là, je les ai mis au parc pour qu'ils nous laissent un petit peu tranquilles quand même.
D'accord. Oh, bah, vous me les présenterez quand même.
Mais avec plaisir.
Parce qu'ils font partie de votre famille, apparemment.
Oh oui, oh oui. Ils me font moins de problèmes que les autres schnappons.
Non, c'est qui les autres schnappons?
C'est mes deux enfants. Non, ils me font des problèmes différents. Mes chiens sont mieux que mes enfants.
Ah,
non, mais mes enfants me rendent pas mal de services.
D'accord.
À la vie, à la mort, reportage Cécile Düring, réalisation Rodolphe Beauchaud.
Alors là, on est devant la vitrine où il y a entre autres les cendres de Jack, ici, mon berger allemand préféré, mon berger allemand fétiche, dans une petite boîte en bois du crématorium, petite boîte toute simple avec un ruban bleu, le colis est posé par-dessus. Et ça, c'est le bâton, le dernier bâton avec lequel mon Jack a joué. J'ai dû le garder, quoi. Là, j'ai les poils de mon chien. Là, j'ai un petit écriteau. Parce que le matin, quand je partais au travail, je mettais un écriteau pour dire à mes enfants, Jack est dans ma chambre. Et puis après, j'ai marqué Jack est dans mon cœur. Voilà. Et puis, on va parler d'autre chose. Ça, c'est un peu compliqué, quand même.
Il y a encore beaucoup d'émotions.
Il y a énormément d'émotions. Oui, oui. Ça a été vraiment le chien de ma vie. Et c'est vraiment c'est difficile.
Il avait quel âge?
Il avait 4 ans et demi. Il aurait 10 ans cette année.
Là, je vois qu'il y a encore sa laisse.
Il y a encore son collier, il y a encore le dernier bâton avec lequel il a joué, il y a sa médaille, il y a un petit avis de mémoire que j'avais fait pour lui, que j'avais mis là où on allait se promener. J'avais mis des bougies vers la Veneuge où on allait tous les jours se promener. Des gens avaient laissé des petits messages. C'était vraiment très très joli parce que ce chien était connu de beaucoup de gens qui allaient promener leur chien à la Veneuge. Et puis voilà, ça a été un petit peu ça a été un crève-cœur pour moi, mais ça a été beaucoup de gens ont eu une petite pensée quand même pour moi et pour lui lors de son décès quand même.
Est-ce que vous seriez d'accord de me lire la fichette que vous avez faite?
Ouais,
avec la photo du chien.
En souvenir du meilleur ami que je n'ai jamais eu. Pour toi, mon Jack, tu étais le meilleur et je t'aimerais toute ma vie. Du 24 novembre 2014 au 12 octobre 2020.
Ça fait longtemps qu'il est parti, mais c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours là, c'est toujours... Tu peux parler du décès de mon père en plaisantant presque, mais Jack, non, je ne peux pas expliquer. C'est comme ça et ça a toujours été comme ça depuis tout. Chaque fois que je dois parler de lui, c'est toujours pénible. Et oui. Voilà. Comme je vous dis, c'était mon copain, mon fils, mon frère, mon confident, mon meilleur ami, mon tout, quoi. Où que j'aille, il venait avec moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et voilà. Puis je pense souvent à lui. Jack, c'était Jack.
Mmh.
que vous faites, Laurence Guémard?
Alors là, je suis en train de... J'ai dégrappé. Donc ça veut dire que j'ai enlevé une partie, la partie superficielle avec la, le gazon, l'herbe, pour pouvoir faire le trou d'une concession simple. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait, il a beaucoup plu et la terre est un peu compacte. Donc c'est un petit peu... On va dire que c'est un peu physique. C'est un petit peu physique.
Vous avez créé votre entreprise et ça consiste en quoi exactement?
Mon entreprise est donc à la base une entreprise de pompes funèbres animalières qui a été fondée en 2023. Donc c'est des services funéraires pour les animaux et pour leurs humains. Donc c'est vraiment des binômes. Mon entreprise va intervenir avant, pendant et après, donc avant pour préparer les euthanasies que je privilégie à domicile et pour finalement déterminer avec les gens quels sont leurs besoins pour passer cette étape d'euthanasie, de deuil, etc.
Donc ça, c'est un accompagnement.
Ça, c'est un accompagnement, exactement. C'est un accompagnement, mais c'est aussi avec le service de transport, la prise en charge de la dépouille, etc. Donc c'est vraiment... C'est une globalité dans la prise en charge de l'animal qui va décéder. Mais pas que de l'animal, parce qu'en fait, une fois que l'animal s'en va, il reste quelqu'un derrière. Donc ça, c'est mon activité après, c'est vraiment de soutenir les gens, de leur ramener les cendres en main propre, de leur, voilà, après, s'ils souhaitent mettre dans le cimetière animalier les cendres, de les accompagner pour ça. Ou même, j'ai une personne une fois qui, dans son jardin, parce qu'on a le droit de mettre ses animaux sur son propre terrain, avec certaines normes, qui a souhaité mettre la dépouille là et m'a demandé de l'aider à faire ça. Donc, c'est aussi quelque chose que je fais.
Et on se trouve où ici?
Alors ici, on se trouve à Montmolin, c'est dans le canton de Neuchâtel. C'est un petit village qui est à 730 mètres à peu près d'altitude, avec une magnifique vue sur le lac. C'est un terrain qui fait 700 mètres carrés, donc qui va me permettre de pouvoir aménager quand même certains aménagements conséquents quand même. Ça s'appelle le jardin du repos, comme mon entreprise du reste, parce que c'est, pour moi c'est le jardin du repos des animaux, et puis de recueillement, c'est un lieu de recueillement pour les gens. Voilà. Donc là, vous voyez que j'étais en train de travailler la terre. Donc là, je suis en train en fait de préparer les concessions. Ça, ce sera des concessions simples. Il est prévu également de faire des concessions doubles. Les concessions vont permettre en fait d'accueillir les cendres des animaux ou les urnes. L'idée, c'est vraiment que les gens aient un petit endroit à fleurir, à mettre une petite sépulture, vraiment quelque chose de, une petite photo, etc. Donc, il y a des gens qui ont vraiment envie de ça, qui ont besoin de ça. Et c'est vraiment comme une, c'est vraiment une tombe.
Pourquoi il y a un besoin, Laurence Guémard?
Il y a un besoin parce que les animaux, ce sont pas seulement des animaux. C'est des êtres vivants qui partagent une partie de notre vie, qui partagent notre quotidien. C'est des membres de la famille à part entière. Il y a vraiment des liens importants qui se créent. J'ai envie de dire, comme pour des humains où des personnes ont besoin d'aller se recueillir dans un cimetière humain où des proches sont enterrés, pour moi, c'est normal de proposer un endroit où les gens qui sont endeuillés par le départ de leur animal aient aussi cette possibilité-là, parce qu'il y a une réelle souffrance. Et c'est cette souffrance-là qui est importante de prendre en compte. Il y aura également, ici, on voit, il y a deux grands arbres. Le Prunus padus, c'est un arbre qui fait des fleurs blanches, que je trouve très très joli. Celui-ci fait à peu près 3 mètres de haut. Et le deuxième arbre, c'est un cornouiller masse mâle. Alors lui, il va faire plutôt des petites fleurs un peu en forme d'étoile, comme ça, jaune, mais jaune pâle. Celui-ci doit encore bien bien se développer. Mais ils ont déjà bien grandi depuis les 3 semaines qu'on les a plantés. Et puis en fait, les cendres, elles vont être, on va faire des trous. Je peux vous montrer là autour. Donc, on va les espacer les uns des autres d'environ 20 cm et on va mettre les cendres dedans. Et on va recouvrir de terre, mettre une petite annotation, un petit épitaphe, quelque chose, une petite inscription Donc les animaux seront vraiment autour de ces deux arbres.
Est-ce que vous avez déjà des clients? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vont venir enterrer leur animal ici?
Alors oui, j'ai une première cliente qui va venir enterrer les cendres de son chien autour de l'un des deux arbres. Elle choisira lequel est plus représentatif pour elle et son chien. Mais je pense que d'ici fin mai, on aura le premier chien qui sera ici.
Il y a vraiment une demande.
Alors il y a une demande et de plus en plus... j'ai un monsieur de Fribourg qui m'a contacté, qui m'a dit « Ben voilà, moi j'ai plusieurs urnes de mes chiens à la maison. J'attends un endroit qui me plaise pour pouvoir les mettre. » Donc je trouve ça magnifique. Alors peut-être cet endroit ne sera pas sans convenance, mais peut-être que oui. Puis peut-être qu'il trouvera enfin un endroit où il pourra venir se recueillir, où il sera heureux de laisser ses animaux.
C'est quelque chose de nouveau, ça, que les gens ont besoin de faire leur deuil de leur animal de compagnie?
Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose de nouveau. Je pense surtout que c'est quelque chose qui est un peu plus mis au jour. Je pense que, simplement, on est en train de libérer un peu la parole par rapport à ça. Mais il y a toujours eu de réelles souffrances. Il y a toujours eu, suivant le lien qu'on crée avec son animal, il y a toujours une souffrance quand il part. Simplement... Il peut avoir des jugements par rapport à ça. Les gens ont peur des jugements de l'extérieur. On entend aussi, c'est qu'un chien, reprends-en un. Enfin, c'est toutes des choses, un peu des phrases types comme ça, blessantes, que les gens peuvent entendre. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de dire aux gens, vous avez le droit. C'est une souffrance. Vous avez le droit d'avoir cette souffrance. Elle est légitime. Vous avez le droit de vivre votre processus de deuil à votre manière et de ne pas avoir honte de ça.
Mais le deuil, c'est tabou pour vous?
Alors, en tout cas, dans ma pratique, ce que je peux ressentir, c'est que le deuil est encore quelque chose de tabou. Alors, pour moi, il ne l'est pas. Mais le deuil, en général, c'est quelque chose qui est tabou. En parallèle, j'ai une activité aussi dans les pompes funèbres humaines. Et je me rends très bien compte aussi que là, on parle d'humain et que le deuil reste quelque chose de tabou.
Est-ce que ce lieu, ce jardin du repos, ça a été inspiré par ce qui existe pour les humains dans les cimetières?
Alors, en fait, comme je travaille quand même aussi dans les pompes funèbres humaines, forcément, je fais des parallèles. Et puis, ça, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Après, ce que moi, je ne fais pas, c'est une tombe commune, en fait. Ça, je ne fais pas. L'idée, c'était vraiment de déposer les cendres autour de l'arbre ou de proposer des concessions. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de terreau.
Lola me fait un bisou.
Lola nous fait des bisous, oui. Mais non, arrête Lola. C'est nous qu'on interviewe, pas toi, fillette.
Et alors, qui est là devant moi? Sur ce, il y a un lit, c'est ça?
Voilà.
C'est Attila. C'est un chien qu'on a récupéré en 2020. Et qui est toujours là à l'heure actuelle, mais plus tout à fait sous la même forme qu'avant.
C'est-à-dire? Est-ce que vous pouvez me le décrire?
Il est empaillé, là. Parce que donc, quand il est décédé, c'était un très beau chien, un très gentil, etc. Donc on a décidé de le faire empailler... pour continuer à l'admirer et continuer qu'il y ait toujours une présence de lui avec nous.
Alors là, il est devant moi et j'ai l'impression qu'il dort.
Oui, on a décidé de le faire les yeux fermés parce que quand les animaux sont empaillés, surtout nos animaux de compagnie, les yeux, enfin le regard est différent, etc. Donc on a décidé de le faire coucher avec les yeux fermés pour, comme s'il dormait, qu'il était apaisé, etc. Et puis donner un côté, entre guillemets, réaliste au chien aussi. Donc...
Alors moi, c'est la première fois que je vois ça et je dois dire que c'est très réaliste. Hein. Je dois dire, j'ai l'impression qu'il va ouvrir les yeux, là.
Oui, oui, oui. Alors, c'est toujours un petit peu étonnant quand je ramène mes copines ou comme ça et qu'elles le voient, elles trouvent ça limite un petit peu deg. Bah, nous, on a l'habitude. Et puis, on a d'autres animaux empaillés que le chien, des renards, etc., qu'on a trouvés. Donc c'est vrai qu'on a en guillemets l'habitude aussi de ce genre de choses. Mais ça peut surprendre, effectivement.
Et vous, vous le caressez ?
Bah oui, parce que ça reste notre chien. Même naturalisé comme ça, ça reste notre bébé, ça reste voilà, on a eu l'histoire a été très très courte mais assez intense. J'ai passé énormément de temps chez le vétérinaire parce qu'il a eu, on a passé énormément de temps chez le vétérinaire parce qu'il a eu un shunt proto-histémique. En fait, c'est les, d'après ce que à ma connaissance, c'est les vaisseaux qui normalement sont dans un, chez un mammifère, le sang est purifié par le foie. Chez un fœtus de mammifère, le sang est purifié par le foie de la mère. Et le sang du chiot contourne le foie par d'autres vaisseaux et ces vaisseaux ne se sont pas résorbés. De fait, ce chien, après sa naissance, s'est gentiment empoisonné avec son propre sang. Et voilà, et on s'est rendu compte de ça un petit peu par hasard. Il appuyait la tête contre les murs. Puis j'ai trouvé ça bizarre. Je suis allé chez le vétérinaire. Et puis là, le premier truc qu'ils ont dit, c'était ça. Alors, ça aurait pu être opérable, mais c'était très, très compliqué pour trouver un vétérinaire qui puisse faire ça dans les temps et tout et tout. Donc, on a réussi à le garder, entre guillemets, le faire survivre pendant quoi, 2-3 semaines.
Non, beaucoup plus
en allant,
quand même.
On a à peu près tous les jours chez le vétérinaire.
On l'a eu en avril et puis il est décédé en juin, donc quand même 2 mois. C'était compliqué de l'opérer, donc au début on avait dit non, puis finalement on avait quand même décidé, après plusieurs vétérinaires, d'essayer de le faire. Et ben, on n'a pas eu le temps, du coup, entre-temps il est décédé devant la maison. Mmh. Donc,
voilà. Et vous avez eu le temps de vous attacher apparemment?
Oui, quand même, évidemment, on s'attache très vite à ces chiens. En quelques jours, on est déjà... Il était très gentil, très câlin. Et puis, on avait aussi une certaine affection parce qu'il était malade. Donc forcément, on a un peu de peine pour lui. Okay.
Bon, là, il a l'air serein.
Oui, oui, j'espère qu'il est mieux là où il est que quand il était vivant. Même s'il y a des jours, ça allait très bien, et des jours, ça allait pas du tout. C'était vraiment...
Alors, votre papa m'a dit qu'en fait... Attila, il s'appelle. Normalement, il est dans votre chambre.
Oui.
Est-ce que vous seriez d'accord qu'on aille dans la chambre avec Attila, dans votre monte à vous ?
J'ai pas trop rangé ma chambre, du coup, parce qu'on l'a mis là.
Ce qui est bien, c'est quand ça se verra pas.
C'est bon, mais je préviens si jamais...
Quand on le promène comme ça, qu'on le prend pour le montrer à quelqu'un qui vient en visite, on le tient comme ça, à bout de bras, il est tout raide, tout rigide... voilà.
C'est un petit là, vous l'avez dans les bras, en fait. Hein.
Là, je l'ai dans les bras, oui, oui.
Est-ce que c'est lourd ?
Non, non, il fait quoi, 8-10 kilos, je dirais. Un petit peu raide quand même.
Ma chambre avec Lola à l'accueil.
Ça, c'est le chien vivant. Hein.
Oui, oui. Heureusement, j'espère qu'elle va rester vivante le plus longtemps possible.
Et comment se passe la cohabitation entre Lola, le chien vivant, et puis Attila, qui. On dit empaillé ou naturalisé ?
Empaillé. Les deux se disent. Moi, je dis empaillé. Mon père, il dit naturalisé. Ça se passe bien. Elle est très gentille. Elle ne s'y intéresse pas tellement. Elle est plutôt. Elle dort aussi beaucoup, quand même, maintenant, à son âge. Elle le renifle un peu, surtout au début, puisqu'elle ne savait pas. Maintenant, elle a l'habitude de le voir. Ça fait 5 ans qu'il est là. Donc, elle ne s'en occupe plus.
C'est un doudou ou...
C'est pas tellement un doudou dans le sens où je vais le prendre dans mes bras ou comme ça. Je le caresse de temps en temps parce que son poil reste doux. Je le touche que avec les mains propres et puis j'évite de trop le caresser quand même pour pas l'abîmer, pas abîmer ses poils, etc. C'est plus entre guillemets une décoration. Je sais que c'est mon chien, je l'aime toujours autant, mais voilà, je le caresse de temps en temps. Mais
parce que là, c'est ses vrais poils.
Oui, oui. Alors c'est ses vrais poils. Et puis l'intérieur, c'est quoi ? C'est de la plastique et mousse. Donc Donc voilà, mais oui, c'est ses vrais poils. De temps en temps, je peux lui donner un coup de brosse pour qu'il soit bien brillant, bien, bien joli.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il est encore là ?
Bien sûr, il est toujours là. Il est juste, c'est pas parce qu'il est décédé qu'il est plus là. Pour moi, c'est pas parce que son cœur ne bat plus qu'il est plus avec nous. Déjà, il est avec moi dans mon cœur, et puis il est toujours là physiquement. C'est juste qu'il peut plus nous donner lui de l'amour. Nous, on peut toujours lui donner de l'amour, on peut toujours le caresser, et puis ça sera pour toujours mon chien, au même titre que ceux qui ne sont pas naturalisés. C'est tous nos chiens, et puis ils sont tous toujours là avec nous, d'une manière ou d'une autre. Donc.
Et pourquoi c'était important pour vous de l'empailler ?
On a préféré le faire naturaliser plutôt que l'amener au crématorium, parce qu'il était vraiment, c'était un bel animal, et ça aurait été dommage de l'incinérer et puis de le perdre, si on veut, comme ça, de perdre son beau côté, juste en l'incinérant. Et puis ma fille m'a demandé, on pourrait le faire naturaliser. Et puis j'ai dit, écoute, si tu veux. Puis du coup, voilà, ça s'est fait comme ça.
Combien ça coûte d'empailler un chien comme ça ?
Alors, le prix normal, c'est 6000 francs. Et puis là, monsieur Coduret nous l'a fait à 3000.
C'est quand même un investissement.
Oui, c'est un investissement. Faire naturaliser des animaux, c'est quelque chose qui est relativement coûteux, mais ça demande un énorme travail au niveau du taxidermiste. Si une fois vous faites une émission sur la taxidermie, c'est phénoménal ce qu'ils arrivent à faire.
Quel rapport vous avez au deuil et au fait de perdre des animaux ?
Les chiens en particulier, je dirais que c'est encore plus compliqué que j'ai perdu mon grand-père l'année passée. Et je sais que le jour où je vais perdre ma chienne, Lola, ça va être encore pire. Parce que voilà, ils sont avec nous au quotidien, tous les jours, on s'en occupe, on les nourrit, et puis ils n'ont que nous. Donc je pense que, oui, avec les animaux en particulier, c'est jamais facile. Même mon chat, c'était pas facile, même mes rats, j'ai des rats, ça va pas être facile non plus. Peu importe l'animal, c'est jamais évident.
C'est vrai, comme m'a dit ma fille, on a perdu mon père l'année passée, à peu près à la même époque, il y a plus ou moins une année. Ça a été un choc, c'est sûr, c'est terrible, c'est la perte d'un être cher. Mais la perte de nos animaux de compagnie est, à mon sens, plus marquante encore, pour moi en tout cas, que la perte d'un être humain. On a un rapport à l'être humain qui est un petit peu différent que la plupart des gens, parce que de nouveau, on regarde, on s'intéresse un petit peu au bien-être animal et à la souffrance animale. Et quand on voit tout ce que l'être humain maltraite les animaux, fait du mal à la nature, fait du mal à la planète et tout. Je suis pourtant pas écologiste ou rien du tout, mais on doit respecter la terre sur laquelle on vit, on doit respecter les animaux qui nous entourent. J'aime plus les animaux que les humains, comme pas mal de monde à l'heure actuelle, je crois. Il y a beaucoup de gens qui se tournent du côté de l'antispécisme, et je peux comprendre les gens qui sont véganes assez facilement. Honnêtement, j'ai plus pleuré pour la mort de mes deux lévriers ce printemps que pour la mort de mon papa. J'ai eu la chance qu'ils faisaient des températures négatives. Elles sont restées quasiment une semaine dans le coffre de ma voiture commerciale. Et tous les matins et tous les jours, j'allais leur pleurer dans le gilet, les caresser, vraiment leur faire encore plein de bisous et leur dire au revoir. Alors je dis pas que j'ai pas eu de peine, que j'ai suivi le corbillard de mon père jusqu'au cimetière du Bois de Vaux. Ça, c'est clair, c'est terrible.
Vacarme.
Mais c'est différent. J'ai une approche différente. C'est une douleur différente.
À la vie, à la mort, c'était un reportage de Cécile During. 058 134 134 0, c'est le numéro à composer pour nous dire si vous avez, vous aussi, perdu un chien que vous aimiez. Que pensez-vous des derniers mots de Xavier Glore, pour qui la mort de l'animal est encore plus dure à vivre que la mort d'un humain ? Où sont les dépouilles de vos amis fidèles ? Avez-vous ritualisé les adieux ? Racontez-nous tout au 058 134 134 0.
Vacarme, Raphaël Bouchet, Laurence Di Félix, Valérie Dantan et Stéphanie Coudray.
Demain, nous verrons que des chiens peuvent aider des personnes souffrant de troubles psychiques et leur permettre de reconstruire le lien rompu avec leurs proches.
C'est un moment où je me sens bien, où je suis un moment de partage un peu avec ma mère, on s'amuse, on rigole, on a le chien à côté qui se balade. Enfin, c'est des moments où on se focalise plus sur le chien et du coup, ça permet d'oublier un peu les soucis pendant un petit moment. C'est ma petite pause de la semaine.
Du flair pour guérir, un reportage à découvrir demain à 13h sur RTS Première. Passez un très bon après-midi dans Histoire vivante, on file dans un EMS.
Histoire vivante. Histoire vivante, Anaïs Kien.
Dans cette série d'histoires vivantes, on explore les lieux où la porte se ferme. La prison d'abord, parce que c'est le lieu emblématique de l'enfermement, mais aussi parce que c'est un modèle pour les autres, pour tous ces lieux où la vie s'organise en vase clos. Des camps d'internement administratif au goulag, en passant par les établissements dédiés aux personnes âgées. Ces espaces de vie si particuliers ont des règles, une organisation dans chaque détail du quotidien. On stocke des corps et des esprits et on les modèle pour qu'ils soient conformes aux attentes de la maison. Ou en tout cas, on tente de le faire.
Madame Dubois,
attends, vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite?
Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles.
Moi, mon objectif, c'est simplement que les pattes soient remplies, que les animations fonctionnent.
Isa, Nelly, serait possible de ranger un tout petit peu le hall, hein, puis me remettre des prospectus, parce qu'il y a des familles qui viennent visiter tout à l'heure. Ah, si c'était possible aussi de m'en descendre deux, trois qui sont un peu plus frais, parce que là, c'est pas tellement 20 dehors.
Bienvenue au Mimosa.
La prison pour modèle, épisode 2, la vieillesse entre quatre murs. La prison influence les manières d'organiser les lieux aux portes closes ou partiellement closes. Mathilde Rossigneux-Méeust est historienne et elle s'intéresse à la vieillesse et à sa prise en charge par les sociétés. Dans ses deux derniers ouvrages, « Vieillesse irrégulière » et « Routine punitive », qu'elle a co-dirigé, elle démontre comment l'enfermement carcéral a eu quelque chose à voir avec l'histoire des institutions qui accueillent les personnes âgées à travers l'histoire. Ça a l'air scandaleux au premier abord, et pourtant.
Alors, c'est une question assez complexe de savoir où se situent les établissements pour personnes âgées, tant ils sont au carrefour d'ambitions de soins, de coercition, de contrôle social. Historiquement, le moment où est énoncée la nécessité en France de proposer des institutions pour prendre soin de la fin de vie, donc c'est au moment de la Révolution française, et l'idée, c'est que les secours publics aux personnes âgées sont une dette sacrée de la société et qu'on doit pouvoir, par des lieux ou par des secours, aider les personnes âgées. Donc au départ, pas d'intention d'enfermement. Il se trouve que la manière d'y répondre, en France notamment, et à Paris précocement, dès le début du 19e siècle, ça a été de proposer des espaces qui sont relativement fermés. Et toute l'ambiguïté est dans le relativement fermé, c'est-à-dire que sont des espaces de prise en charge dans lesquels, selon le statut social des individus, le droit de sortir est plus ou moins accordé. Plus on descend dans l'échelle sociale, plus le droit de sortir et donc l'obligation d'être enfermé et soumis à des règles communes est important.
Et comment on justifie cette dégradation du droit à sortir en fonction de l'identité du patient ou du pensionnaire?
Alors, il n'y a pas beaucoup de justifications. Contrairement à d'autres institutions comme la prison ou l'hôpital psychiatrique, il n'y a pas de théoricien qui justifie le phénomène de l'enfermement des personnes âgées, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas d'experts, en fait, dans ces espaces-là. Au mieux, sont des espaces médicalisés dans lesquels il y a des médecins qui soignent ponctuellement les résidents qui tombent malades, mais il n'y a aucun savant, en fait. Il y a un directeur, généralement, qui a beaucoup de pouvoir, mais une faible théorisation. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ne pas appliquer les sorties? En fait, il y a plein, c'est la réglementation quotidienne, en fait, qui fait que finalement ces espaces sont des lieux d'enfermement. Et à titre d'exemple, dans les hospices du premier 19e siècle qui sont réservés aux indigents, donc les hospices par exemple comme Bicêtre ou la Salpêtrière qui enferment plusieurs milliers d'hommes et de femmes, il y a un seul jour de sortie qui est accordé. Et ce droit va évoluer, va être discuté tout au long du 19e siècle. Il va y avoir des moments où ça va être trois jours, puis on reviendra un jour. Enfin, voilà, c'est toute une discussion, mais qui n'est jamais l'objet d'un débat théorique.
Et cet enfermement, de fait, d'une certaine façon, c'est un enfermement administratif. Comment est-il formulé en fonction de l'identité des pensionnaires de ces institutions, puisque au début de cet entretien, vous disiez que voilà, la liberté des pensionnaires variait beaucoup en fonction de leur identité sociale.
Ce que vous dites sur l'enfermement administratif, c'est très important. C'est-à-dire que l'enfermement, il est le produit d'une somme de réglementations. Et ces réglementations, elles sont très contraignantes pour les plus indigents. Alors comment est-ce que finalement le temps et l'espace des personnes âgées est réglé dans les institutions qui s'inventent au XIXe siècle, bah il est d'abord réglé par les heures de lever et de coucher, qui sont plus précoces dans les établissements pour indigents et encore plus précoces dans les établissements dans lesquels travaille du personnel religieux jusqu'aux années 1880, hein, qui est la grande période de laïcisation de la plupart des établissements hospitaliers. Parce que, en gros, pendant très longtemps, on aligne le lever des résidents sur les premières prières des sœurs qui peuvent avoir lieu à 5h du matin, jusqu'à se rendre compte que c'est un peu contraignant pour les résidents d'être réveillés si tôt, surtout en hiver, en plein cœur de la nuit. Donc c'est les heures de lever et de coucher, les heures de coucher faisant débat dans pas mal d'établissements, dans la mesure où il y a quelques établissements qui couchent leurs pensionnaires à 19h ou 20h, ce qui est jugé beaucoup trop tôt par les résidents. Ces heures contraignantes, c'est aussi des heures de travail. La plupart des indigents ont des obligations à travailler au moins 3 heures par jour, et donc il y a cette obligation au travail. Autre réglementation qui enferme, si on veut, les résidents dans un certain nombre de contraintes, c'est celle de prendre des repas en commun. Et ça, c'est intéressant parce que on a dans l'idée que la vie commune, c'est quelque chose de structurant et de quasiment de caractéristique de la vie dans les institutions pour personnes âgées. En fait, au début de l'invention de ces espaces-là, au premier 19e siècle, les repas sont pas pris en commun dans tous les établissements. Et c'est progressivement qu'il va y avoir une obligation à manger ensemble au réfectoire le midi et le soir. Et cette obligation-là va à nouveau scander de manière collective et autoritaire le temps des personnes âgées.
Et ça sert à quoi à l'institution justement de rassembler tous ces pensionnaires au moment des repas?
Toutes ces contraintes, en fait, elles sont jamais, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais elles sont jamais justifiées par une finalité thérapeutique, éducative, ni même coercitive. En fait, elles nous réduisent en fait à formuler des hypothèses. À quoi ça sert d'avoir à ce point ordonné l'emploi du temps de personnes âgées dont on juge justement qu'elles ont tout le temps et qu'elles sont considérées comme incapables de vivre par leurs propres moyens hors de l'institution? Et bien ça sert tout simplement à organiser des espaces qui sont très peuplés. Il faut se rendre compte que les institutions pour personnes âgées sont les institutions les plus énormes en taille. À la Salpêtrière, il y a près de 3000 résidents âgés. À Bicêtre, il y en a 2000. Dans un espace comme les Incurables, il y en a plus de 1000. Au Petit Ménage, c'est aussi 1000 pensionnaires à la fin du 19e siècle. À la maison de retraite de Villers-Cotterêts, qui dépend de la préfecture de police de Paris, c'est 1700 résidents au début du siècle. Donc, ce sont des contingents très importants. Et pour faire fonctionner ces établissements, la mise au pas du temps est une condition nécessaire de la gestion de l'intendance même de ces espaces.
Dans les prisons, les casernes ou les pensionnats, par exemple, l'objectif officiel est de transformer l'individu en le remettant sur les rails de la loi, en lui apprenant, en le formant à un métier, y compris à sa discipline. Mais pour les personnes âgées, placées en institution, l'attente est bien différente.
La première grande évolution, c'est de prendre des distances avec un héritage coercitif. C'est-à-dire que justement, les établissements, qu'ils soient privés ou publics, confessionnels ou non, hein, il y en a de tous ordres, ces établissements vont progressivement essayer de mettre à distance le modèle de l'hospice prison, comme ils l'appellent de temps en temps, et par exemple, choisir pour les uniformes des tissus qui ne ressemblent pas à ceux des prisonniers, ouvrir les établissements temps, comme je le disais tout à l'heure, plus de jours par semaine pour que ça ressemble pas à des prisons, rémunérer le travail qui était gratuit, qu'on appelait jusque-là la corvée. Donc la première grande tendance, c'est ce qu'on a appelé progressivement l'humanisation des établissements. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que traiter avec humanité, c'est quelque chose qui se dit dans les années 1870 jusqu'à la fin du 19e siècle et qui reviendra un siècle plus tard, en 1970, pour caractériser le grand mouvement de transformation des établissements pour personnes âgées. Donc ça, c'est le premier mouvement. Le second mouvement, c'est de donner aux personnes âgées des conditions de vie plus apaisées, plus conformes à leur âge. Et par exemple, l'idée d'avoir créé des maisons de retraite, donc qui leur permet le retrait, et de penser des lieux qui soient loin des villes, loin de l'agitation urbaine, ce qui est d'ailleurs complètement à rebours des intérêts revendiqués des résidents, hein, qui veulent pas du tout s'éloigner des centres-villes, mais imaginer des lieux qui seraient au vert et conformes à des vies de retrait, et ben c'est aussi une des propositions qui est faite tout au long de la période. Et la diminution du temps de travail orchestrée tout au long du 19e siècle et finalement actée dans la plupart des établissements au second 20e siècle seulement, c'est quelque chose aussi, c'est un mouvement de fond qui caractérise les établissements pour personnes âgées dont on a hérité aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a des contraintes économiques, qui sont des établissements qui disposent de très peu de moyens. Et donc, il y a une implication de la part des résidents, notamment en termes de travail et une mise au pas dans ces établissements qui suppose un certain nombre de contraintes et de disciplines. Et c'est ce qui fait que cette proposition, elle est aussi ambiguë, c'est-à-dire que, en gros, si on regarde à l'entrée des établissements, on observe des files d'attente très longues. On peut attendre plus de 2 ans dans les années 1870 pour rentrer à Bicêtre ou à la Salpêtrière. Mais les conditions de fin de vie sont des conditions qui sont extrêmement coercitives. C'est-à-dire que ce qui est la clé d'explication, c'est l'extrême détresse économique des gens qui demandent ces établissements, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à accepter un coût très fort disciplinaire pour avoir en échange une fin de vie économiquement protégée.
Aujourd'hui, lorsqu'on visite un EMS, un EHPAD ou une maison de retraite, on tombe systématiquement sur une pièce d'activité avec sa feuille collée sur la porte qui indique des ateliers de travaux manuels, des projections de films, des cours de danse même parfois. Bref, on cherche à divertir les pensionnaires. Mais ça, c'est aujourd'hui. Un peu plus tôt dans l'histoire, la vieillesse est mise au travail.
Alors, c'est une autre ambiguïté de ces établissements, c'est-à-dire qu'ils sont créés pour des gens qui ont, en théorie, pas les moyens de travailler. Hein.
Mathilde Rossigneux-Méheust, historienne, spécialiste de la vieillesse et de sa prise en charge.
Pour des gens qui sont dans l'incapacité de travailler, c'est ça qui est réglementairement demandé aux personnes qui postulent. Et dans le même temps, on demande aux résidents, une fois admis, de donner une partie de leur temps au travail. Il faut comprendre que, en fait, on ne parle pas exactement du même type de travail. On demandait aux postulants de n'être pas capables de vivre de leur travail, alors qu'en institution, on leur demande de donner du temps d'un travail qui est à leur rythme et forgé sur leur capacité. Alors, de quel type de travail il s'agit ? D'abord, il faut distinguer pendant tout le 19e siècle deux types d'emplois. Un premier type d'emploi dont j'ai déjà parlé, qui s'appelle les corvées, qui sont du travail gratuit, qui s'élève à 2 ou 3 heures par jour, qui consiste en gros à l'entretien du bâtiment et les corvées d'épluchage. Il faut se rendre compte que dans les gros établissements, il faut éplucher plusieurs centaines de kilos de légumes par jour et que ce sont des heures considérables. Donc il y a d'une part ce travail gratuit qui va être à la fin du 19e siècle, dans les années 1890, dans la plupart des établissements supprimé pour être remplacé par de faibles rémunérations. Et puis à côté, un travail obligatoire dans des ateliers qui, lui, va consister soit à raccommoder des vêtements, fabriquer des chaussures, participer au fonctionnement de l'établissement. Par exemple, moi, j'avais travaillé sur les résidents qui travaillent au cimetière. Faire tourner les cimetières des établissements, c'est fabriquer des cercueils, s'occuper des jardins du cimetière. Enfin, il y a toute une économie de la mort dont sont responsables en partie les les résidents. Et ce travail qui est obligatoire, il est fait par une partie des résidents. Il faut bien se rendre compte qu'il y a aussi toute une partie des résidents qui ne peut plus travailler ou n'a jamais pu travailler et du coup qui, lui, ne travaille pas. Mais il faut atteindre un très haut niveau d'infirmité pour être exempté de ce travail-là. Et j'ai pu observer que même dans des cas de cécité assez avancée, il y a des femmes qui ont du travail à la pièce alors même qu'elles sont en dortoir, au lit. Elles font de la couture jusqu'au dernier moment de leur capacité oculaire.
Et comment se fait la voie vers la rémunération de ce travail ?
Alors, ce qui est particulièrement désarçonnant quand on travaille sur les hospices au XIXe siècle, c'est qu'on se rend compte qu'il y a vraiment une parole de ceux qui sont en train de devenir des usagers des institutions publiques. Et c'est vrai en particulier dans les établissements pour hommes. Je m'explique. En fait, le fait qu'il y ait des pétitions pour réclamer une augmentation du confort de vie, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers toute la France dès le début du XIXe siècle, notamment pour l'alimentation. Se plaindre de ce qu'on mange à l'hospice ou à l'hôpital, c'est quelque chose de très classique. En revanche, ce qui se produit à partir des années 1870, à partir de la Troisième République, au moment où notamment les plus âgés deviennent aussi des électeurs, c'est qu'ils vont avoir une oreille particulière des élus et à Paris du conseil municipal et de la gauche révolutionnaire tout particulièrement. Comment est-ce que ça se passe ? Eh ben, les résidents adressent des pétitions aux élus, les élus se déplacent assez souvent dans les établissements, il y a même des meetings qui se font à Bicêtre ou à l'hospice d'Ivry. Ce sont des lieux politiques assez actifs à la fin du 19e siècle. Et il y a même des organisations, des associations qui se forgent dans ces établissements pour demander tout un tas de choses, pour demander à ce que le tram s'arrête devant les établissements, pour demander de l'argent pour envoyer des lettres, pour demander que le travail soit rémunéré, pour demander à ce que tous les résidents aient le droit à un enterrement gratuit, etc. Donc il y a tout un ensemble de mobilisations qui s'intensifie à partir des années 1890-1890 et qui obtiennent l'oreille attentive des élus de gauche du conseil municipal parisien.
À ce moment-là, Mathilde Rossignol-Méheust, les pensionnaires sont aussi devenus des électeurs. C'est ce qui explique peut-être aussi cet intérêt pour les candidats.
Alors, c'est évident qu'il y a un lien entre l'obtention d'un certain nombre d'avancées réglementaires et la citoyenneté acquise par les vieux pensionnaires. C'est évident parce que les avancées sont beaucoup plus rapides dans les établissements pour hommes, que les élus se rendent beaucoup plus souvent, beaucoup plus fréquemment, font beaucoup plus de tournées dans les établissements réservés aux hommes. On l'a pas dit depuis le début, mais là, il y a beaucoup d'établissements non mixtes encore au 19e siècle. C'est même la norme. Et le différentiel entre les établissements est vraiment très aisément reliable à la citoyenneté des vieux résidents.
Ces visites de campagne électorale, c'est un exemple de relation avec l'extérieur. Les établissements qui accueillent des personnes âgées ne sont pas fermés. En théorie, on entre et on sort, comme dans un moulin, dans la limite du respect de la tranquillité des pensionnaires. En pratique, c'est différent.
Alors, déjà, il y a une vraie différence entre les établissements qui ont toujours été ouverts, sont les établissements payants ou les établissements qui sélectionnent leur public. Par exemple, l'Hospice des Ménages, qui est un établissement réservé aux vieux couples, ou la Fondation Galignani, qui sélectionne une partie importante de ses pensionnaires dans l'Académie des Beaux-Arts et des Belles-Lettres, sont des établissements qui sont ouverts tout au long du 19e siècle et dans lesquels le droit de visite est autorisé tous les jours. Donc, il y a une vraie différence entre ces établissements et les établissements pour les indigents. Pour les indigents, il y a aussi une distinction qui s'opère entre la liberté, il y a une partie très réduite, mais qui existe tout au long du 19e siècle, de résidents qui ont des compétences professionnels qui les poussent à travailler à l'extérieur de l'établissement. Il faut pour cela avoir l'accord du directeur, mais et reverser une partie du salaire qui est touché à l'extérieur de l'établissement. Mais il y a une partie des résidents de Bicêtre, par exemple, qui travaillent à l'extérieur. Mais globalement, ces libertés, elles sont relativement réduites. Ce qui est intéressant, c'est que chez les indigents, à mesure que les établissements s'ouvrent, ils ne s'ouvrent pas pour tout le monde. C'est-à-dire que les plus malades, mais aussi les plus indisciplinés, n'ont pas les mêmes droits que les autres, et que ce droit de sortie, il est toujours visé par le directeur qui régule le rapport entre l'intérieur et l'extérieur.
C'est quand même hallucinant que personne ne puisse jamais sortir d'ici, vous trouvez pas? Ils sont toujours cloîtrés entre quatre murs. C'est quoi le problème?
Mais de quoi je me mêle? Il est formellement interdit de faire sortir les résidents sans une autorisation de ma part.
Comme il y a une norme pour décrire la bonne recrue, le bon soldat, le bon détenu, il y a une norme pour les bons pensionnaires, les bons vieux en institution. Mais toutes et tous ne s'y plient pas si facilement. Mathilde Rossigne-Méost.
Alors, il y a une longue histoire des indisciplines et de leur gestion dans les établissements pour personnes âgées, qui courent du 19e siècle jusqu'à une période récente. Au 19e siècle, ce qu'on observe, c'est qu'il y a tous les ans des comptabilités punitives qui sont faites des résidents qu'on retrouve ivres dans l'établissement ou qui insultent ou qui sont violents à l'égard du personnel ou d'autres résidents. Mais pour le 19e siècle, on a perdu la plupart des archives qui géraient les punitions et les indisciplines. Donc on n'a que ces comptabilités finales, et dans la correspondance des directeurs, on les voit gérer des problèmes disciplinaires. Alors comment est-ce qu'ils les gèrent ? Déjà en punissant, avec une punition qui est quasiment toujours la même d'ailleurs jusqu'au 20e siècle, qui est celle de la consigne. Donc c'est le fait d'interdire le droit de sortie les jours où pourtant les autres résidents sortent, et ça peut aller jusqu'à l'expulsion dans un autre établissement. Au 20e siècle, les choses évoluent un peu. D'abord, les punitions deviennent parfois un enjeu du débat public. Elles évoluent, mais elles gardent des formes qui sont de manière troublante semblables au 19e siècle. Et effectivement, dans le livre Vieillesse irrégulière, j'ai travaillé sur un établissement qui était la maison de retraite de Villers-Cotterêts au second 20e siècle, cette fois, et dans lequel il y avait une manne archivistique, dans lequel il y avait des carnets de punition qui étaient conservés des années 1940 jusqu'en 2005, donc sur une chronologie très proche de la nôtre. Et dans cet établissement, il y avait, et c'est à ça qu'est consacré le livre, un petit fichier particulier, un fichier d'indisciplinés qui était sorti de l'établissement, et on avait créé ce fichier pour, surtout s'ils se représentaient, ne pas les reprendre. Et ce à quoi j'ai pu réfléchir, c'est qu'en fait, dans plusieurs établissements parisiens, il y avait des comptabilités de ce type, hein, d'individus qu'on ne souhaitait pas reprendre, des espèces de blacklist de résidents indésirables, et que ces résidents indésirables, en fait, étaient finalement toujours repris. Donc, ce qui est intéressant dans l'histoire des indisciplines des personnes âgées, c'est que, à la fois, elles se répètent de manière assez semblable du début du 19e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, avec toujours les mêmes motifs. L'alcool est absolument central dans les motifs de punition, et c'est à peu près toujours la même punition qui est donnée, à savoir le retrait du droit de sortie. Et ce qui se reproduit aussi, c'est le fait que les individus, même exclus, sont finalement repris, soit dans les mêmes établissements, soit dans des établissements à plus mauvaise réputation. Mais l'inconditionnalité de l'aide aux personnes âgées fait que finalement, ça rend un peu caduque le système punitif. Thank you.
La prison a fait modèle, y compris dans l'organisation de la prise en charge de la vieillesse. Une relation historique un peu trop intime.
Il y a plutôt une volonté de mettre à distance la prison comme modèle de prise en charge. Et toutes les mesures d'humanisation qui courent du 19e au 20e siècle ont pour but de mettre à distance ces établissements fermés en rappelant que ce sont des établissements d'assistance et de soins. Néanmoins, quand on regarde les formats que prennent les gestions des indisciplines, on est frappé de la ressemblance avec les autres, les établissements plus carcéraux. Mais c'est plutôt dans les pratiques administratives qu'on se rend compte qu'il y a une symétrie, et ça a été tout l'objet du travail mené avec Elsa Génard dans Routine punitive et tout un collectif d'historiens et d'historiennes. On se rend compte qu'il y a des bricolages administratifs dans les hospices qui font que les sources à la fin des punitions ressemblent à celles de l'école ou de la prison, mais que c'est jamais l'objet d'un travail ou d'une réflexion administrative poussée. C'est à nouveau plutôt le produit d'une contingence et d'une nécessité quotidienne de gérer des effectifs importants. En revanche, et ça a été tout l'objet du livre sur les routines punitives, en revanche, quand on réfléchit à la fois à la théorisation, mais aussi aux pratiques punitives, il y a des différences importantes. Le raffinement des punitions en prison ou la justification thérapeutique des formes de contrainte à l'hôpital psychiatrique ou la justification éducative des prisons dans les lycées du 19e siècle n'ont pas d'équivalent dans les maisons de retraite ou les hospices du 19e et du 20e siècle qui, une fois encore, ne théorise pas les punitions, mais emprunte des formes routinisées de punition. Et ce qui était intéressant dans le travail très attentif aux indisciplines que j'ai menées pour le second 20e siècle à Villers-Cotterêts, c'est à quel point ces punitions viennent sanctionner des fins de vie qui parfois ont été toute leur vie punitives. Il y a certains résidents qui étaient passés par l'assistance publique, puis Biribi, puis la prison, puis des hôpitaux psychiatriques, puis Villers-Cotterêts, puis à nouveau des hôpitaux psychiatriques, puis Nanterre, enfin des vrais parcours punitifs. Mais il y a aussi des individus qui découvraient à Villers-Cotterêts des formes de coercition particulièrement fortes, alors même qu'ils étaient venus chercher derrière ces murs une fin de vie, certes assistée, mais qui faisait suite à une vie relativement ordonnée.
Histoire vivante, c'est Anaïs Quien, avec Valérie Dantan à la préparation et Jean-Philippe Zvalen à la réalisation. Dans le prochain épisode, enfermés sans être jugés, les internements administratifs en Suisse. Lucas Torrent et Dis pourquoi juste après les infos. Il est 14h sur RTS Première.